what you do?
You'll shoot your eye out,
kid. I am serious.
Elle m'a fait penser à une fleur étrange munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky mauve. Et je connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance.
La chance nous a donné rendez-vous quelque part, faut pas la rater.
Bah qu'est-ce que tu fais là, Betty?
Je me chauffe le cul.
Tu vois la petite muraille là?
La petite muraille de Chine?
Voilà, celle qui part du lac.
Ouais.
Le rocher là, le gros là, tu le vois?
Le gros truc là?
Ouais, c'est ça.
C'est beau.
Et la petite maison là, tu la trouves pas mignonne? Hein?
Ouais, mais j'ai toujours peur, tu vas en venir.
Putain, j'adore ce coin.
T'as raison, il manque rien. Tout est à sa place. C'est formidable.
Betty, tout ça c'est pour toi. Tout.
Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Et bonsoir à tous et à toutes, vous écoutez bien Arrête ton cinéma sur le 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr. Toutes ces voix que vous entendez ne sont pas dans votre tête. Ce soir, Arrête ton cinéma va vous parler de maladie mentale au cinéma. Anaëlle.
Oui, bonsoir.
Oh là là, elle est en train de nous scotcher notre creepy...
Ouais.
Mais non, mais je suis en train de me dire, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas abordé le thème maladie mentale dans son entièreté en fait.
Pas du tout, non, parce qu'on peut pas, parce que sinon faudrait qu'on prenne le DSM-4
ouais.
et qu'on prenne un film par maladie et ça prendrait, je pense, à peu près 600 à 800 heures.
Non, peut-être pas jusque là.
Oh si si, t'as déjà eu le DSM-4 entre les mains. Enfin bref, nous ne sommes pas tout à fait.
Normal. Dégénéré.
Normalo. Nous ne sommes pas tout à fait équilibrés dans cette émission. En tout cas, on va essayer de vous parler de maladie mentale avec le maximum de recul. Hein.
Arrête ton cinéma.
Ouais. Voilà, sur RDW.
Et je m'auto-dis moi-même bonjour. Bonjour. Ah, salut. Ça va bien? Ouais, ça va. Et toi? C'est pas mal.
Bon, alors qui commence et qui a un vieux film par exemple? As-tu un vieux film,
oui,
Gwen?
Oui, j'ai un vieux film des années 60 de monsieur Alfred Hitchcock, Psycho.
Donc on dit Psycho. Donc.
Psycho,
non,
oui.
Psycho.
Non, ni le Bydob, ni le Winter Session.
Exactement.
Oui, avec notre cher Norman Bates hein, qui avait un fort problème avec sa maman, hein, un petit peu empaillée. Et donc sous les traits d'Anthony Perkins qui vit au-dessus d'un motel qui accueille évidemment des gens. Évidemment, c'est comme dans l'habitude, dans les motels, c'est toujours perdu au fin fond des États-Unis.
Dans le Middle West.
Ouais, voilà, c'est ça. Et évidemment, avec la scène de meurtre la plus connue du cinéma.
Dans la douche.
Dans la douche avec le couteau et évidemment...
Et les violons.
Oui, voilà. Mais oui, c'est ça, il y a un orchestre derrière.
Oui. Voilà, bah moi, ça. Souvent, quand je suis sous la douche, il y a un orchestre.
Oui, c'est le Titanic. Voilà.
Pourquoi? Parce que y a un paquebot qui coule.
Non, voilà. Parce que t'as Leonardo qui est en train de se noyer dans ta baignoire. Voilà, alors, il y avait...
C'est quoi? Il est fou.
Oui, je sais.
Ah bah oui, on remarque aujourd'hui, bah oui. On peut dire toutes les bêtises qu'on voit, on est ça. Fou.
Et d'ailleurs, il y avait eu un remake de Gus Van Sant.
Gus Van Sant.
Sans. Donc il avait fait un remake, mais alors là carrément plan par plan. Voilà,
ah juste... oui, un remake, c'est pas un remake, c'est une copie.
Ouais, c'est un copier-coller, on appelle ça. Modernisé, ouais. Et là c'était Vince Vaughn qui jouait le rôle de Norman Bates.
J'adore.
Celui qui jouait dans Alias.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, donc je dirais, après il y a plus vieux, hein, il y avait comme M le Maudit de Fritz Lang, là c'était un tueur de petits enfants. Hein. Et la pègre et la police s'étaient mis en bande pour le chasser. Voilà, ça fait partie des vieux films. On a aussi des Claude Chabrol, Le Boucher, hein, Jean-Yann en 1969. Un gentil petit boucher qui revient d'Indochine et d'Algérie et qui décide de tuer des jeunes filles. Évidemment.
Il paraît que la guerre a tendance à traumatiser.
Oui,
les
voilà,
gens.
C'est ça. Ben, y a beaucoup. Hein,
je crois que les maladies mentales ressortent pas mal de ce genre de traumatisme.
Voilà, oui.
Tu sais, des maladies mentales qui arrivent en groupe d'un coup quand les gens rentrent dans la
c'est
guerre.
C'est les stress post-traumatiques, on dit.
Exactement.
Depuis la guerre d'Irak, maintenant, on a une terminologie qui permet.
Donc tout le monde dit la guerre en Irak, mais Gwen, depuis des années, dit la guerre d'Irak. Il continue, hein.
Bah, non, moi, c'est la guerre de l'Irak.
De l'Irak.
De l'Irak. La guerre bah, d'ailleurs, de ça me fait penser hein, justement à Taxi Driver de Martin Scorsese, puisque là aussi, notre cher Travis Bick avait des petits problèmes schizophréniques. Voilà, là aussi. Et puis, il avait fait le Vietnam, lui.
Une moue dubitative d'Anna.
C'est sur le Travis Bick. Je suis pas trop sûr que c'est comme ça.
Travis
Bick. Si, si. Travis. Et voilà. Et puis, évidemment, après, on a une liste sans fin de gens qui sont un petit peu malades, mais qui sont un petit peu sanguinolents. Le fameux silence des agneaux avec oui. Hannibal Lecter, le cannibale, qui avait fait repris un petit peu. Voilà. Le véritable tueur en série, Ed Gein, donc dit la goule de Plainfield, et puisque là, dans le film, il recherche Buffalo Bill, tu sais, le monsieur qui s'habille avec des vêtements. Et ben voilà, Ed Gein, lui, avait eu un gros problème avec sa maman. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma goule? Elle ne te revient pas? Quoi, ma
goule? C'est bon. Non, mais on pouvait s'arrêter juste là.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est ce qui me fait penser à d'autres, évidemment, cannibale célèbre, Issei Sagawa, donc le cannibale japonais. Et puis
tu te fais en sushi, donc.
Ouais.
Non, parce que j'ai
no dit, sushi.
Hannibal gelé, mais alors Issei
Sagawa. Et
Sagawa.
Ben, c'était non,
je vais
c'était
en... transformé en en sushi, sans sucré ou sans salé. Ah, je préfère être douce.
Oui, bah d'ailleurs c'était une étudiante néerlandaise qui l'avait. Donc voilà, c'était l'autre pays.
Qu'il avait quoi manger?
Il l'avait mangé, oui effectivement.
Il a mis du gouda dans ses sushis.
Oui, parce que monsieur aimait les dames.
Ah, la nourriture du monde.
Monsieur aimait les dames, jolie. Oh
merci,
là.
Voilà. Et évidemment, sans aussi rappeler André Chiquita... Chiquitilo, l'ogre de Rostov.
Chiquitita, tell me what's wrong.
Cette émission part en sucette. Effectivement. Voilà, il y avait aussi.
Sinon, tu peux partir en couille comme sur un gros ballon.
Pas de gros mots. Il est 18h passé de quelques minutes. Nous sommes toujours 107.5. Je vous en prie. En plus, on parle de gens. Des gens, quand même, qui ont tué là.
Donc, ah, mais c'est vrai, un peu de sérieux.
Mais un peu de sérieux. Voyons.
Sur les maladies mentales.
Voilà, des maladies mentales, comme dans Copycat. Là, c'est, en fait, c'est l'histoire avec Sigourney Weaver, qui est donc une spécialiste des serial killers et qui est, hélas, agrophobe, puisqu'elle s'est fait attaquer.
Agrophobe?
Agoraphobe, ouais. Parce qu'elle s'est fait attaquer par.
Ouais, tu sais, Sigourney Weaver, elle est agrophobe.
Elle est agrophobe, elle a peur des agriculteurs. L'agrophobie. Ah, un tracteur!
Non, t'es où? Un pécor! Ah!
Ne crie pas, tu vas briser les tu tympans. Vas tous les rendre fous.
Voilà, c'est ça.
Le oui, blé, ça va, mais dès que je vois des engins, après, ça me rend toute chose.
Mais le blé, déjà.
Je vous en prie, je vous en prie.
Votre engin me rend toute chose. Oh non, mon Dieu.
Alors. C'est dans quel film, ça? On n'a pas dû voir les mêmes. Oui, évidemment, puisqu'elle s'est fait agresser par Harry Connick Jr.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc elle reste dans son appartement. Et là, il y a un serial killer qui décide en fait
un
serial killer.
Un quoi? Si c'est bon.
Un tueur en série. Bon. Un tueur en série qui décide de faire des copier-coller de tous les autres, d'imiter ses pairs, comme le fameux Ted Bundy ou le vampire de Düsseldorf ou même l'étrangleur de Boston. Voilà, c'était un peu, il y avait une triptyque parce qu'il y avait le collectionneur ou un serial killer décidé de collectionner évidemment des jeunes filles toutes jolies et un peu solitaires. Et puis il y avait le Bone Collection où le spécialiste et là était tétraplégique. Évidemment, il était enfermé et il devait rechercher un serial killer. Et Angelina Jolie était ses yeux et ses mains. Voilà.
Et attends, un film qui s'appelle Bones? Et dedans, il y a Angelina Jolie?
Non.
C'est qu'à moitié étonnant.
Bone Collection.
Ah, Bone.
Ah, parce que Bone, c'est un film avec Snoopy Dogg.
Ça, et puis, ça parle d'os avec Angelina Jolie. Voilà. Ça
elle est très bien, Angelina Jolie. Tu arrêtes.
Elle a plein d'os.
Oui, il va être comme toi. Je pense que le même nombre. Hein,
on n'appelle pas un os, on appelle Brad Pitt.
Ils sont plus ensemble.
Quoi?
Non.
Non, c'est quoi? Non. J'en sais rien.
Non, désolé.
Mais si, ils viennent juste d'acheter une maison en Bourgogne. Arrêtez quand même.
Oh la vache.
ATC vous livre des secrets, donc voilà.
Ah bah nous on connaît les stars, tu
parles. Bah oui, il faut
je l'ai eu au téléphone il y a 3 jours, elle m'aurait pas dit qu'elle s'est séparée.
Toutes les stars écoutent ATC sur RD War.
Oui, elle fait des collections de bêtes
accordées. Angelina Jolie pour RD War, arrête en cinéma, je vous aime.
I love you.
J'aime la France. Oh, mais bien, c'est bien ça.
Voilà.
On les garde parce qu'après on fait les jingles.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Bon, alors c'est mon tour de parler.
Oui,
pas.
Vas-y, vas-y.
Parce que moi aussi j'ai un film qui commence à dater. One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Ah oui, ah. Un vol au-dessus d'un nid de coucou.
Bravo, youpi. C'est un film de Milos Forman, donc américain de 75. C'est tiré d'un livre de 69. Si vous voulez, je vous dis même chez qui c'est publié.
Oui, vas-y, vas-y.
C'est chez Stock, qui s'appelait La Machine à brouillard, mais le nom était un peu moins bien. Et le titre est tiré d'une chanson. Enfin voilà. Bref.
D'accord.
Coucou en français, en anglais, c'est la même chose de toute manière. Donc ça désigne
oui.
un.
Coucou.
Coucou.
Coucou. Coucou.
Ah, que le coucou.
Donc c'est l'histoire d'un détenu qui doit purger, enfin qui est soupçonné de viol sur mineur, qui doit purger sa peine, enfin en attendant d'être jugé, je pense. Et il simule la folie pour être plutôt en HP plutôt qu'en prison.
C'est mieux.
Je sais pas. J'aimerais pas aller en HP.
Est-ce
personnellement.
Qu'il simule la folie?
Oui, il l'a simulé premier temps. Alors, il n'est pas tout à fait clair comme gars, on est d'accord. Voilà. Déjà, il est joué par Jack Nicholson.
Qui n'est pas tout à fait clair comme gars. Parce que Jack Nicholson, on le voit dans Les Sorcières d'Eastwick.
Joli.
Bah oui.
Dis donc, sinon, j'aurais loupé le coche. Aujourd'hui, j'en aurais pas parlé.
Mais je crois que c'était ça que tu voulais nous parler.
Dis donc, bah donc, je ne l'ai pas dit, c'est pas de ma faute. Et puis, il sème. Enfin, il fout le bordel, hein, pardon.
Oui.
Il met le bazar.
J'ai eu peur parce qu'il sème, je dis.
Il aime qui
Il s'aime. Non. Donc le bazar parmi les internés, les détenus, les pensionnaires, je sais pas comment dire.
Oui, les pensionnaires.
Enfin, ils sont quand même détenus, hein, notons.
Oui,
l'hôpital psychiatrique, c'est quand même une vraie prison. Hein,
capitonné.
Et il fout le bazar, il met l'anarchie là-dedans, il les pousse à se révolter. Surtout contre une des infirmières, Miss Ratched.
Ouais, Mildred.
Et puis quand même, il subit des électrochocs. Enfin bon, il se passe un drame que je vais pas raconter parce que sinon je vous gâche le truc. Mais en tout cas, il y a quand même un élément perturbateur là-dedans, dans le petit scénario du gars qui fout le bazar dans l'hôpital psychiatrique. Et ça devient quand même un drame.
C'est une bonne immersion dans les hôpitaux psychiatriques quand même.
Ouais,
c'est pas mal foutu.
Oui, et cette infirmière Mildred, elle est considérée comme l'un des pires méchants féminins au cinéma.
Tout à fait. Et il a eu des Oscars, plein d'Oscars, 5 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film.
Et c'est Voilà au-dessus d'un nid de coucou, c'est le film à voir, à mon avis, dans cette émission dont on va parler.
Oui, tout à fait, oui.
C'est le film sur les maladies mentales.
Tout à fait. Okay. On peut noter dedans qu'il y a Christopher Lloyd, clin d'œil à notre prochaine émission, n'est-ce
oui.
pas Danny DeVito, quand même.
Oui,
Jack Nicholson évidemment et Louise Fletcher qui joue donc la affreuse Mildred Ratched.
Et il y a Brad Dourif aussi.
Tout à
qui
fait.
Joue Billy Bibbit.
Voilà, mais je visionne pas qui est Brad.
Et si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, c'est celui qui fait Grima, langue de serpent. Voilà.
Ah oui, c'est lui qui empoisonne le père là.
Voilà, c'est
dans
ça.
Le roi.
Ah,
c'est ça,
oui,
voilà.
Voilà. Enfin, vous allez le voir, quoi. Il est bien. Enfin,
ah non, il est super.
Il passe pas au cinéma, mais...
Allez le voir, parce que moi, j'ai une maladie qui fait que je pense qu'on est encore...
En 75.
Oui,
allez le voir au cinéma.
Elle a un problème temporel.
Il sort aujourd'hui dans toutes les salles.
Il passe au Bestel la semaine prochaine. D'ailleurs, j'avance un peu sur la chronique.
Voilà.
Jack Nicholson, je t'aime.
Jack Nicholson, tu as donc 35 ans. C'est fabuleux.
Et tout, encore tes cheveux.
Tu n'as pas encore tourné Les Sorcières d'Eastwick. Ah, c'est
oh, le running gag de ouf.
Ouais, non mais.
Bah, oui.
Bref.
Ouais. Vas-y à toi.
Anne-moi.
Allez-y à toi.
Allez-y à moi. Du coup, moi je vais vous parler donc de mon plus vieux film.
Qui date de 2012.
Qui donc est sorti en 1996. J'ai fait un effort.
Ah oui.
T'es allé loin là.
Donc c'est un film, je vous fais un petit question pour un champion, vous devez
oui,
buzzer,
vas-y,
ok
vas-y.
Donc c'est un film qui est sorti le 19 janvier 1996, il dure 1h33, il est réalisé par Danny Boyle, il y a Ewan McGregor.
Trainspotting.
Oui. Le point est pour
Becky.
J'oublie toujours comment tu t'appelles.
Ah, my name is Becky, je ne suis pas folle, vous savez.
C'est
bonsoir.
Ma maladie.
Vous écoutez toujours RDWA avant que Anna nous lance un extrait, je le sais.
Ah oui, pardon.
Oui. Avant que Anna nous lance un extrait, je vous informe que vous écoutez toujours Arrête ton cinéma sur les ondes positives, je fais comme Ismo, les ondes positives de RDWA sur le 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr. On est en train de perdre Gwen.
Choisir la vie, choisir un boulot, Choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques.
Dégage ! Man !
Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle. Choisir les prêts à taux fixes. Choisir son petit pavillon. Choisir ses amis. Choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de mal d'eau. Choisir de pourrir à l'hospice. Et de finir en se pissant dessus dans la misère en réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête qu'on a pondus pour qu'ils prennent leur lait. Choisir son avenir. Choisir la vie. Pourquoi je ferais une chose pareille ? J'ai choisi de pas choisir la vie. J'ai choisi autre chose. Les raisons ? Y a pas de raison. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne.
Oh là, je suis fan.
Bon, vous êtes mes héroïnes.
Si vous... Oh, c'est trop mignon. Si vous vous êtes suicidé après cet extrait sonore...
C'est normal. Si vous avez acheté votre putain de canapé à crédit et que vous êtes en train de vous gerber sur les pompes, c'est normal. C'est oui. L'angoisse.
Évitez
c'est normal.
La cuvette, par contre.
Par contre, évitez l'héroïne parce que ça ne règle absolument pas le problème du pantouflard. Hein. Ça vous rend juste un pantouflard héroïnomane.
Je vous le dis. Certes. Donc, c'est sorti en 96. J'ai dû le voir quelques années plus tard quand même. Oui.
Oui.
Un petit peu. J'avais 5 ans en 96.
Oui, je t'avoue.
Et quand
c'est vrai
je
que le coup du bébé mort peut faire un drôle d'effet.
C'est ça. Et voilà. Et en fait, au lycée, c'était exactement ça. On nous parlait de la scène du bébé mort. Alors, comme si c'était la scène la plus importante du film, ce qui n'est pas vrai. Hein,
Elle est quand même assez affreuse. Hein.
Oui, voilà.
Oui, mais c'est pas la scène qui résume le film. Je peux pas résumer Trainspotting à la scène du bébé mort. Excusez-moi.
Tiens.
Et donc, c'est les aventures de Marc, qui est un junkie à Édimbourg.
En Écosse
et qui a des potes qui sont héroïnomanes mais pas que, ils prennent toutes sortes de drogues d'ailleurs.
Oh, ils prennent tout ce qui passe la plupart.
Voilà. Qui sont plutôt pas super cool les uns avec les autres.
Ils sont pas tout à fait dans la bienveillance.
Voilà, non. C'est pas vraiment
mais
des
amis. Mais je
pense
que l'héroïne te rend pas très bienveillant.
C'est ça. Et lui va essayer de s'en sortir. Est-ce qu'on peut résumer le film à ça ?
Bah ouais, il y a toute une succession d'événements, mais en tout cas, c'est une bande de junkies et Marc qui tire un peu son épingle du jeu parce que il est junkie, mais il est pas couillon et
voilà. Alors après, c'est un film sur bien sûr l'addiction à la drogue qui est une sorte de maladie mentale, mais en fait, c'est pas vraiment ça dont je voulais parler en parlant de Trainspotting. C'était du fait qu'en fait, c'est complètement des psychopathes, quoi.
Oui.
Tous autant qu'ils sont. C'est-à-dire que la drogue leur a provoqué. Des réactions de timbre, quoi.
Tu trouves qu'ils sont pas très adaptés.
C'est-à-dire que voilà, tu te demandes ce qu'ils font, ce qui se passe.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous arrive,
Misfits.
Ils sont fous.
What's the problem?
Ils sont complètement fous. Donc c'est un film à voir. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui.
Oui.
Oui. Après, âme sensible.
Alors c'est interdit moins de 16 ans.
Oui. Ouais.
C'est assez court quand même. Hein. En 1h30, t'as le.
Voilà, ouais. Et il y a aussi du drôle hein, dans Trainspotting.
Oui, heureusement d'ailleurs. Ouais.
C'est cette espèce d'humour anglais, même si
c'est écossais.
Voilà, qui fait que c'est.
C'est pas un petit poids.
The Scottish fan, on appelle ça.
C'est de l'humour
un peu.
C'est
écossais que c'est un petit poids.
Et.
Et notre gagnante est.
Il me faut ma petite batterie, pardon.
Et McGregor, ça fait. C'est rigolo de le voir dans un rôle qui est pas lisse, je trouve.
C'est ça.
Bah, en fait, moi, c'est un des premiers films que j'ai vu avec McGregor. Oui. Et du coup, après tu tapes les autres. Et là, il est lisse et ça fait bizarre.
Voilà.
Genre de le voir dans cette espèce de merde qui chante, là, pardon.
Moulin Rouge,
quelle horreur.
Voilà.
Oh, ça va.
Par exemple.
C'est infâme.
Donc, je propose qu'on passe à un autre film. Et il y a d'autres petits extraits de Trainspotting, mais je vous mets.
Elle nous
plus
les distribuera.
Tard.
Moi, j'ai un film.
Vas-y.
Avec Voldemort. Avec Ralph Fiennes. Spider. C'est un film donc canado-britannique de David Cronenberg qui date de 2002. Donc on a Spider, donc c'est un gars, qui a passé longtemps en HP, enfin en institution spécialisée. Il est schizophrène.
On peut dire HP, hein, c'est un terme qu'on peut employer.
Oui. Hôpital psychiatrique, tout à fait. Et donc après son internement, qui est plutôt long, je ne sais pas combien il y passe d'années, mais longtemps, il est dans un centre, un foyer de réinsertion. Ça se passe en Angleterre, évidemment. Et il se remémore ce qui l'a amené à aller en HP, c'est-à-dire d'avoir eu, pendant ses années d'enfance, d'avoir vécu un drame qui semble seul à avoir vécu, d'ailleurs. Une espèce de délire où il se dit que son père a tué sa mère et qu'il l'a remplacé par une prostituée dont il était amoureux. Voilà. Mais le fait, en ressortant de l'HP et en étant en centre de réinsertion, c'est qu'il y repense et qu'il y repense différemment et que finalement, il mène une enquête.
Voilà, alors c'est aussi la nuance entre la maladie psychiatrique et la réalité et tout le monde qui veut vous faire passer pour fou.
Ouais.
C'est un des thèmes qui a été beaucoup abordé.
Oui, voilà.
Et qui est quand même assez flippant.
Bah là, tu vas pouvoir nous parler d'un film, du coup.
Oui, je dis que tu peux rebondir là-dessus.
Moi, je peux carrément rebondir là-dessus. Je peux rebondir sur Shutter Island de Martin Scorsese, qui est sorti en 2010.
Il est bon,
un
film.
Film.
Très bon.
Donc, avec dans les rôles principaux Mark Ruffalo et Leonardo DiCaprio. Et donc, c'est un thriller. Grave. Avec Leonardo DiCaprio, la première scène se passe sur un bateau. Et.
Il fait la chorégraphie du thriller.
Ok. La première scène se passe sur un bateau. Et rien que cette première scène, elle vous met dans le bain. Il arrive sur une île où il y a un hôpital psychiatrique. Et je vais vous laisser écouter la bande-annonce en fait.
Faites-moi un topo sur cette institution.
C'est seulement que c'est un hôpital psychiatrique.
Pour fous dangereux.
Nous ne prenons que les patients les plus dangereux, les plus gravement atteints. Ceux dont aucun autre hôpital ne peut s'occuper. Je vous informe que vous devez nous remettre vos armes.
Mais nous sommes marshals des États-Unis.
Pendant votre séjour, vous suivrez le protocole. Messieurs, bienvenue à Shutter Island.
Marshal Daniels ?
Docteur. Donc, cette prisonnière, Rachel Solando, s'est enfuie en séquence ces dernières 24 heures.
Elle est considérée comme étant dangereuse ?
On peut dire ça.
On est à 18 km de la côte et l'eau est glacée.
On ignore comment elle est sortie de sa chambre.
On est repassé à minuit pendant la ronde et elle n'était plus là.
Elle s'est comme volatilisée à travers la muraille.
Beaucoup de gens connaissent cet endroit, mais personne ne veut en parler, vous voyez ? C'est à croire qu'ils ont peur.
Tu comprends pas, t'es un rat dans un labyrinthe.
Qui est au courant ? Tout le monde. Les infirmières ? Le personnel ? C'est impossible ! Tout le monde. Vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas vous laisser partir.
Où allez-vous comme ça ?
J'ai envie de le revoir.
Moi aussi, et rien que la bande-annonce m'a crispée. Alors, Shutter Island, la seule chose que je peux vous dire sur ce film, c'est que ça se passe dans les années 50, que c'est un marshal et son coéquipier qui sont envoyés pour enquêter sur l'île de Shutter Island, qui est donc un hôpital psychiatrique, comme vous venez de l'entendre. Et c'est quand même une île où il n'y a que des dangereux criminels et des fous vraiment...
C'est pas pour rien qu'ils sont sur une île.
Hard,
quoi.
Voilà, ils sont sur une île. Il y a un bateau qui vient toutes les semaines, je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, ils vont enquêter parce que Rachel Solando, qui est une des patientes de cet hôpital, a disparu de manière inexplicable, effectivement. Elle a laissé des petits indices. C'est-à-dire qu'elle est sortie d'une cellule qui était fermée de l'extérieur et qu'on a retrouvé seulement une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente.
Et il faut l'emmener à... Sur France 2, comment il s'appelle ?
Des chiffres et des lettres. Et du coup, en fait, ça va se jouer un espèce de thriller. Donc, je refais, vas-y, refais la chorégraphie. Très bien. Sur cette île, avec Leonardo DiCaprio qui mène l'enquête et qui perd un peu la tête sur
Mais
cette île.
Mais on ne sait pas trop. Moi, à la fin, j'étais pas d'accord avec d'autres gens dans le cinéma.
Bon, en tout cas...
Ça reste un...
Oui, parce qu'il est venu quand même pour une autre chose sur cette île.
Voilà, c'est-à-dire qu'il est là, donc il perd un peu la tête, c'est-à-dire qu'il a des visions. En même temps, il y a une énorme tempête qui s'abat sur l'île pendant son enquête.
Comme toujours.
Et donc, il y a eu beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour que ça soit flippant. Et j'avais pris un peu de musique, mais je verrai peut-être à la fin si je peux vous la passer, parce que ça fait 6 minutes de musique quand même.
Ah oui, quand même.
Moi, tu peux quand mettre un morceau, parce que j'aime bien cette musique avec ces grosses basses qui font peur. Bon, fais-moi peur, s'il te plaît.
Morceau.
Merci.
Je peux même parler un petit peu sur la musique super flippante de Shutter Island.
Oui. Vous n'êtes pas tout seul.
Tu entends ces voix dans ta tête ?
C'est exactement ça.
Maman.
Donc c'est un film qui a quand même une atmosphère hyper flippante.
Aide-moi, papa.
Et qu'à la fin du film, d'ailleurs dans ce studio il y a une atmosphère super flippante, hein, chers auditeurs. Et à la fin du film de Shutter Island, il y a une espèce de retournement, de gifle dans votre figure. Et c'est ce genre de film qui ne se dénoue que quand c'est terminé. Et en fait, vous avez l'impression d'avoir flippé pendant tout le film. Et finalement, vous flippez encore plus quand vous sortez de la salle de cinéma. Voilà.
Qu'est-ce qu'on se marre, là ?
Sans taré. J'ai fini sur Shutter Island, qui prend la suite.
Moi, avant, j'étais schizophrène, mais maintenant, nous allons mieux.
Ouais.
Allez, vas-y, parle. Alors, t'as droit à tes 3 minutes de parole.
Oui, alors top chronos. Alors donc, 37-2, Le Matin de Jean-Jacques Benex.
Ah ouais, il est bien celui-là.
En 1986, évidemment, d'après le roman de Philippe Tian.
Ah oui.
Donc, on a l'histoire de Zorg, joué ici par Jean-Luc Anglade.
Zorg.
Oui, il s'appelle Zorg. Oui,
okay.
oui, Zorg. Bah oui, j'aime bien. Et qui vit dans un bungalow, parce qu'en fait, il répare toutes les
Zorg qui vit dans un bungalow.
Oui.
Non, voilà. Mais bon, faut tout écrire. Hein.
C'est chacun son
faut
truc.
Tout oser,
oui,
hein.
Voilà. Et là, il rencontre Betty, qui est jouée par Béatrice Dalle. Et oui, c'était les débuts de Béatrice Dalle, d'ailleurs. Et en fait, en faisant le ménage, Betty découvre que Zorg, eh ben, ma foi, il écrit. Et donc, elle a décidé, pour lui et pour eux, qui serait écrivain. Et donc elle va le pousser vraiment dans cette voie, comme elle est légèrement un peu hystérique, hein, comme notre chère Scarlett O'Hara dans Autant d'emporte le vent. Et ben en fait, elle pousse Zorg à quitter son emploi et ça va être un petit road movie, hein, ils vont aller chez leur copain monsieur Gérard Darmon. Et au bout d'un moment, et ben elle a envoyé le manuscrit de Zorg aux maisons d'édition qui refusent les uns après les autres. Elle va se croire enceinte, elle va commencer à devenir un petit peu fofolle, voire un petit peu violente, puisqu'elle s'arrache quand même un œil, hein, dans cette histoire.
Rien que ça.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est vrai
et en fait, il y aura une fin un petit peu à la vol au-dessus d'un nid de coco à la fin.
Ça veut dire qu'il ne faut pas le dire, parce que moi je ne l'ai pas dit. Alors
non, mais je ne l'ai pas dit. Mais
c'est pareil que Shutter Island, on ne dit pas la fin.
Voilà, bah c'est ça. On ne dit pas la fin.
Bah surtout que Shutter Island, il faut pouvoir la dire la fin quand même. Tu n'es pas tout à fait sûr de ce que tu dis.
Voilà,
ah, on en discutera après, parce
d'accord.
Que moi je suis sûr de ce que je dis.
Donc, ouais,
mais
voilà,
comme d'habitude.
Voilà.
Allez.
Voilà, c'est fait.
Non, mais écoutez, je vais y aller. Hein.
Oh non, elle est partie.
Tu sous-joues la sortie.
Ouais,
non,
ouais.
Là, je le fais.
Elle a fait juste le pied, elle a même pas fait la porte.
Non, mais je le ferai une autre fois.
Elle a traversé la porte.
Je suis pas très en forme cette semaine.
Anna.
Oui.
Anna.
Je sens que c'est la maladie mentale qui m'emporte.
Ouais.
Bonjour, ici c'est la maladie mentale, je vous emporte. Donc voilà, pour en revenir à 37-2 le matin, voilà, excellent film, moi j'ai adoré. Voilà.
Yeah, I have.
Alors, on n'est pas très rebondissement, hein, sur cette émission.
I have a movie.
On délire, mais on a du mal à.
Ah, bah
à
c'est.
À rebondir sur les films des autres.
Non.
On défend son beefsteak, quoi.
Son beefsteak.
Son beefsteak. Arrête avec ce beefsteak.
Allez,
qu'est-ce que c'est un beefsteak?
Défends ton beefsteak. Bah, c'est deux steaks, en fait, si à moi.
Voilà, ouais. C'est le beefsteak.
Ou c'est un steak qui est bisexuel.
Aussi, mais
est-ce
moi j'ai
qu'on
plus jamais vu des relations.
Est-ce qu'on peut parler de bisexualité? Parce que moi je parle du principe
qu'on est tous bisexuels.
Voilà,
on a déjà
oui,
eu cette conversation.
Est-ce que tu as déjà vu deux morceaux de viande se faire?
Est-ce
non,
qu'on
non
peut
j'ai
être,
rien dit.
Est-ce qu'on peut être be curious?
Be curious, yeah. Yeah.
C'est-à-dire
yeah.
C'était le seul moment de ce film qui était intéressant. Bref, vas-y.
Oui.
Alors, we need to talk about Kevin.
Yes. You want to talk about his meal, about his sleep bed. I don't know. Kevin, how is Kevin?
Alors, Tilda, Tilda Swinton.
Ouais.
Oh, génial.
Ouais, on se calme. Bon, joue Eva.
Ouais. Putain, Gwen.
Joue Eva, la maman de Kevin.
Yes.
Elle arrête de bosser pour élever son fils Kevin. Et dès le début, dès sa naissance, elle a une relation particulière avec Kevin, ce bébé. Elle comprend pas grand-chose à ce bébé. Bon, ça arrive souvent de pas comprendre grand-chose à son bébé. Je suis la première à pouvoir le dire. Mais là, vraiment, elle comprend rien. Et la relation devient très compliquée. Le climat est très malsain. Et donc, à un moment donné, Kevin, il part carrément en cacahuète. Il commet un acte extrêmement répréhensible.
Un peu irréparable.
Complètement. Et là, du coup, sa mère essaye de... Bah, elle réfléchit, en fait, à comment s'en est arrivé là. Comment, petit garçon, elle aurait pu voir des signes interpréter, comment elle aurait pu l'aider, comment, enfin voilà. Et c'est assez affreux, quoi, de voir cette mère dévastée avec... Enfin, ça nous renvoie à tous nos trucs, hein, au niveau de la parentalité, tu vois, de ce qu'on peut faire pour ses enfants, à quel point on est influent, voire décisionnaire sur leur parcours, et de voir qu'il y a d'autres choses que nous qui interviennent dans leurs histoires et dans leur futur, et de voir qu'à un moment donné, des fois, on peut se retrouver la maman d'un con ou d'un assassin ou...
C'est pas facile.
Voilà,
hein.
C'est ça.
Voilà.
Bah, y a eu
d'un croyant.
Il y a eu beaucoup de recherches, notamment sur les serial killers, et ça partait dès l'enfance, dès leur rapport avec leur mère.
Pas que la mère. Oui, non, mais pas que.
Non. Non, mais d'accord. Non, mais je veux dire aussi un père brutal ou alcoolique, là aussi. Mais bon.
Mais
voilà.
Des fois, pas seulement. C'est un peu ça toute l'histoire du film là, c'est que du coup, Eva, elle essaye de réfléchir, mais enfin, il n'y a pas.
Anaëlle,
Eve, tu as croqué la pomme.
Oh, tais-toi, sors du paradis. Allez hop, file.
Oh mais merci quoi.
Quoi, ça vous dérange?
Que tu croques la pomme? Oui.
Non, ça me gêne pas trop.
Don't croque the apple.
Et elle comprend pas, Eva, ce qu'elle a pu faire de travers. Enfin, tu vois là, des fois, c'est énorme. Tu vois la relation de cause à effet. Tu cherches un peu dans le passé de certains serial killers, ça devient évident. Ah ouais, d'accord, celui-là il s'est fait violer, tout ça. Bon, ok. Bon. Alors bon, tous les gens qui se font violer.
Est-ce que c'est parce que tu te fais violer que tu dois bouffer des gens derrière ou...
Bon, tous les gens qui se font violer ne deviennent pas des serial killers, mais disons qu'il y a des choses facilement explicables.
Oui, enfin, je veux dire, après il y a toute une suite d'événements.
Ça explique, mais ça n'excuse pas, quoi.
Ben évidemment, on est là-dedans. Non, enfin. Et puis bon, là après il y a des gens qui sont jugés irresponsables, donc bon, ça va bien au-delà de ça, puisqu'on est dans la maladie mentale, hein, là. Hein.
Voilà,
bon.
C'est ça.
On parle bien de maladie. Quand t'as un rhume et que t'éternues tout le temps, personne peut vraiment t'en vouloir d'éternuer toutes les 5 minutes.
On est d'accord.
Parce que t'es malade.
Pourtant, c'est pénible.
Et ouais, pourtant, c'est hyper pénible. Quand t'es un psychopathe
et
que tu tues des gens toutes les 5 minutes, et ben, ouais, dépend. C'est chiant.
Ça dépend. Il y en a quelques-uns qui ont été glorifiés, hein. Staline, Mao.
Bah, d'autres.
Hein. Ils ont leur
Staline
portrait.
Surtout.
Après, il faut faire les choses oui, correctement. Bah, d'ailleurs, plus récemment, on est encore vivant. On a Poutine, par exemple.
Bah, oui. Voilà.
Voilà.
Ouais, George Bush.
George Bush, tout à fait. Ouais. Père, voilà. Fils.
Ouais. Oui, en plus, c'est en famille.
C'est ça.
Vous avez aimé le père, vous aimerez le fils.
C'est ça, c'est bon, bref.
Enfin, ce film-là est bien aussi. Et puis, personne ne peut rebondir sur We Need to Talk About Kevin.
Yes, We Need to Talk About Kevin. You want to talk about what?
I think you can talk about drug.
Yes, I will again.
On ATC 107.5.
Yeah.
Alors, tu vois, arrête ton cinéma. Alors, un film de Darren Aronofsky.
Ah, ouais.
C'est bien parce que j'en ai un juste après
sur Darren Aronofsky juste derrière. Avec Jared Leto, Ellen Burstyn et Jennifer Connelly.
Il est affreux ce film.
Oui.
Alors, je sais, entre Trainspotting et Requiem for a Dream, je ne sais pas lequel est le pire.
C'est Requiem for a Dream.
Ouais, je trouve aussi.
Bah, il n'y a pas l'humour en fait.
Ouais, c'est ça.
Déjà.
Qui sauvait. Alors, mais par contre, Requiem for a Dream est interdit au moins de 12 ans seulement par rapport à Trainspotting qui était au moins de 16. Moi, la scène de double sodomie, je la trouve un peu. Bref.
Elle est dégueulasse.
Voilà.
Oui, oui.
Donc, en gros, là, c'est l'histoire d'une nana. Qui est. Est-ce que c'est ça? Enfin, il y en a une dans l'histoire qui est complètement anorexique, malade, voilà. Gravement, et qui veut aller à la télé.
Je veux être une star.
Voilà. Et puis, il y en a trois autres qui sont en train de s'inventer un monde parce que le monde est trop pourri avec les drogues. Et en fait, du coup, leur monde devient encore plus pourri que le monde qui était pourri au départ. Ouais. C'est vrai. Non, c'est horrible. Ce film est affreux. Pour le coup, cette histoire de psychopathie, de cette maladie, de la recherche d'un monde meilleur et d'être complètement taré dans la recherche de drogue et de vie meilleure.
C'est la mère qui prend des enfêtes, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. Ouais.
Complètement.
Du coup, c'est pas drôle du tout.
Ah non,
du coup. J'ai trouvé une chance.
Vas-y.
Sur RDWA, arrête ton cinéma, 107.5 FM. 106.5 FM. Elle est pas mal celle-là.
106.5 FM.
www.rdwa.fr. Et c'est une émission sur les maladies mentales.
Mais vous pouvez écouter avec vos enfants ou pas.
Voilà.
Voilà, donc c'était Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Qui, quelques années plus tard, fait un autre film dont tu vas nous parler, Becky. Vas-y.
Oui, c'est Black Swan.
Ah,
évidemment, vu au cinéma, grand frisson.
Raconte un petit peu le côté maladie mentale, parce qu'on en a parlé 8000 ans.
On en a parlé déjà plein de fois de Black Swan, avec cette danseuse dans un grand ballet qui a du mal à obtenir le rôle qu'elle veut, et quand elle l'obtient, elle perd légèrement la raison, tu vois. C'est-à-dire que... Comment expliquer ? Bah, ouais, elle devient complètement tarée en fait. Bon, alors déjà, elle a ce métier quand même très stressant qui l'aide pas. Je veux dire, elle a beaucoup de pression.
Plus sa mère.
Oui,
voilà, elle a beaucoup de pression. Elle a la pression des nanas avec qui elle danse. Le chef de ballet est quand même particulier et l'aide pas beaucoup. Et puis, elle a ce rapport avec sa mère dès l'enfance, légèrement abusive, hein, quand même, on peut le dire, au moins psychologiquement. Et qui vit comme une gamine de 12 ans alors qu'elle en a 25 ou 30. Enfin voilà, c'est complètement. Et on sombre petit à petit dans la folie en se demandant
avec
ce
elle.
Qui est de l'ordre du réel et du pas réel. Et effectivement, on est complètement avec elle. On est. On se demande nous-mêmes ce qu'on comprend bien et ce qu'on comprend mal dans le film.
C'est exactement ça.
Et puis voilà.
Et puis on se rend compte que finalement, on avait une option « je comprends bien » et une option « je comprends mal », du coup c'est ça. Et en fait, c'est aucune des deux options, c'est encore une troisième option. Du coup, t'es complètement perdu. C'est ça qui est beau.
Ouais.
Tout à fait. Et le film est très beau.
Oui.
Voilà, pour plein de points de vue, c'est bien joué. C'est bien réalisé, c'est très esthétique. Et puis c'est l'immersion dans le monde du ballet et de la danse. Et... très réaliste et du coup à tout ce côté très très brutale aussi. Tu vois, c'est très beau, une danseuse étoile sur scène de loin. Et puis en fait, elle a le corps qui est meurtri. Elle est, voilà,
je crois que Darren Aronofsky, c'est assez brutal et réaliste en fait.
Oui.
Voilà, avec ce côté hyper sombre. Mais finalement, c'est des films qu'on aime à revoir. Enfin bon, Requiem for a Dream, moins parce que c'est un peu violent. Mais Black Swan, moi je l'ai vu une paire de fois quand même. Mm. C'est très violent aussi, hein, que je ne veux pas l'oublier. Je sais pas où est l'interdiction, mais c'est aussi très bon.
Et ben, en parlant d'artistes, une artiste qui est connue pour interpréter toujours des rôles un peu de fofolle, hein, c'est notre chère Isabelle Adjani, hein, puisqu'elle avait commencé en 75 avec l'histoire d'Adèle H de Jean-François Truffaut, donc évidemment la fille de Victor Hugo. Lui, Victor Hugo, hein, est omnibilé par la mort accidentelle de Léopoldine et qui la laisse totalement. Et donc Adèle se passionne pour un officier britannique qui s'appelle Pinson et qui la suit jusqu'au Nouveau Monde. Mais lui, par contre, il n'est pas du tout intéressé
Pinson
par elle.
Pinson Rire.
Oui, voilà, c'est ça. Pinson Rire. Et donc elle va sombrer dans la folie. Là, c'était en 75. En 83, elle fera L'été meurtrier de Jean Becker. Hein,
je où, ne suis pas folle, vous
voilà,
savez.
C'est ça, où elle va jouer une demoiselle.
Après, elle monte ses seins.
Voilà, c'est ça. Bon, même à poil, hein, à un moment, elle est à poil dans la cour. Et avec Alain Souchon. En 98, ça va être Camille Claudel.
À poil dans la cour avec Alain Souchon. Mmh.
Voilà, c'est ça.
C'est sa nouvelle chanson.
Voilà. Donc, Camille Claudel de Bruno Nuitaine.
Salut, Erdiwa, c'est Alain Souchon.
Oui, non, il parle pas comme ça. Hein. Il y a chez vous, on dit. En 2009, c'est la journée de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld. Et il y avait aussi en 1994 La Reine Margot de Patrice Chéreau, où la reine elle aussi est un peu fofolle. Donc,
et à chaque fois, elle a quand même.
Et à chaque fois, elle a un scissor.
Est-ce que c'est pas comme Jack Nicholson? Est-ce que c'est pas l'actrice là qui rajoute, enfin qui amène carrément un côté fou au rôle? En tout cas, en supplément, quoi.
Oui,
si,
tout
moi
à
je
fait.
Suis hyper d'accord avec
si,
ça.
Si, mais si,
ces acteurs-là sont choisis pour ça, d'ailleurs.
Bah oui, parce que celui qui avait joué le Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan, Heath Ledger, lui, il avait été tellement bouffé par ce rôle qu'à la fin, il s'était suicidé quand même. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments où pour jouer un. Comment ça s'appelle, des personnages à la limite de la folie. Je
c'est
pense
pas
que
la
ça...
limite, hein, le Joker, il est taré. Mais déjà, quand Jack Nicholson l'avait joué,
oui, déjà.
Il était taré.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'après, c'est même... parce qu'être acteur, c'est aussi paranoïaque et schizophrène. Je veux dire, tu joues un autre personnage, tu rentres dedans et il y a certains comédiens qui ont du mal à même quitter certains rôles, quoi. Mm-hmm. Donc voilà. Donc effectivement, puisqu'il y avait aussi, ben puisque je te vois, ma chère Becky, je ne peux que parler de Lilith et de Robert Rossen. Rossen.
Je le prendrai mais pas.
Mais oui. Mais non,
super
parce que en 1964.
Tu peux m'expliquer en quoi je.
Oui, parce que ça parle de Ginsenberg dont tu nous avais parlé. Voilà, elle joue une schizo. Et en fait, c'est l'histoire de Vincent Bruce, qui est joué ici par Warren Beatty, et qui lui est de retour de l'armée et qui va travailler dans un asile et va tomber amoureuse de cette femme qui va l'entraîner dans sa folie. Et il y a aussi le cinéma de Terry Gilliam aussi. Puisque lui aussi, c'est un réalisateur un peu fou.
On en a déjà parlé, du coup.
Oui, mais voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire...
comment... Brésil.
Oui, Brésil, Thaïlande, l'armée des douze singes.
Ah oui, ça aussi, c'est quelque chose quand même.
Voilà, il y avait des films aussi comme Lars von Trier, Nymphomaniac aussi.
Alors voilà, ça, je voulais l'évoquer, Nymphomaniac, partie 1 et partie 2.
Voilà,
parce que ce sont deux films de Lars von Trier et précédemment Antichrist.
Oui, aussi.
Lars von Trier, avec Charlotte Gainsbourg. Oh, c'est bizarre.
Oui.
Et lui se penche sur la maladie mentale. Mais en fait, donc j'ai vu Antichrist et Nymphomaniac partie 1. J'ai pas encore vu partie 2. Mais c'est. Pour moi, Lars von Trier, c'est. Il prend ça comme sujet, puisque c'est le sujet quand même de son film, hein, Les Nymphos, mais il va parler d'autre chose, il va dévier, ça va être long,
il va y avoir des
espèces de scènes un peu sombres où tu comprends pas, des scènes de regard où tu te dis, mais attends, mais
qu'est-ce qu'il essaye de me dire?
Alors, s'il essaye de me dire ça, c'est vraiment simpliste, et en fait, c'est simpliste, en essayant de se la jouer un peu. Enfin, moi, je trouve qu'il se la joue. Voilà, c'est mon opinion perso, mais je trouve qu'il se la joue et je trouve qu'il aborde pas le thème de la maladie mentale avec toute la franchise que demande ce thème.
Ouais, voilà. Et puis moi, puisqu'on va lentement mais sûrement se diriger vers le pestel,
c'est surtout faut qu'on ferme la porte avant de partir.
Voilà, c'est ça la porte de l'hôpital. je voulais parler juste de deux petits films, enfin deux petits films si on peut en parler.
Attends, juste avant que tu parles de deux petits films, je te mets une musique, ok? Donc c'était le très très bon Born Sleepy de Underworld et on a eu une chorégraphie
je
de
remercie,
Gwen.
Je remercie en fait, moi je voudrais remercier Gwen, notre coéquipier, parce que en fait...
Il ponctue cette émission
de choses fabuleuses, à chaque extrême musical on a le droit à une chorégraphie ou quelque chose de fabuleux.
Mais qui va dedans hein.
Et toujours, voilà, ça tombe à pic,
voilà, c'est
à
ça.
Point nommé.
Après on se demande si visuellement, radiophoniquement parlant,
mais
vous
nous
pouvez
ça nous fait
ça.
Bien marrer.
Non mais...
L'émission est pleine d'émotions.
Oui, mais
voilà.
j'ai fait...
te rappelles cette chorégraphie pendant ta musique sur Hôtel Rwanda? Ça tombait à point nommé de nous faire mourir de rire avant de nous parler d'un génocide.
C'est exactement
ouais,
ça.
C'est ça.
Bah là, c'est pareil. Je veux dire, c'est la musique de Trainspotting. Un peu dégueu. Et Gwen nous a fait donc le DJ sur la table de mixage.
Mais il était parfait.
Mais très très bon. Très, très
oui,
bon.
Imitation de David Guetta.
Excellent, voilà.
Voilà. Non mais j'ai fait mime à la radio.
Je vous invite du coup à mettre Born Sleepy de Underworld dans votre voiture et d'emmener Gwen en vacances. Vous pouvez vous payer une bonne tranche de rire.
Voilà, c'est ça. Donc, eh ben, en parlant de rire, voilà deux films un peu plus légers puisqu'on a quand même parlé de films assez sérieux.
Joli rebond.
Voilà, c'était Rain Man.
Et je fais la passe à Gwen.
Oui, superbe. Alors Rain Man, évidemment Rain Man,
ah oui,
Rain
j'ai
Man
failli
avec,
en parler,
avec
ouais.
Tom Cruise et Dustin Hoffman. Là, on parle de l'autisme. Autisme
Reading.
Voilà.
Ouais, mais tout je trouve que c'est bien que tu abordes cette plage-là de la maladie mentale.
Voilà, tout à fait, oui. Parce que, en fait, c'est l'histoire donc, de Tom Cruise hein, qui croit qu'il va recevoir l'héritage de son paternel, qu'il a viré Manu Militari de la maison. Et en fait, il va s'apercevoir que, en fait, on a donné son héritage à un type qu'il ne connaît pas. Et il va le kidnapper. Et c'est là qu'il va s'apercevoir qu'effectivement, ce monsieur a des légers problèmes.
C'est son frère.
Son frère. Oui, mais ça, il le saura que plus tard.
Oh merde, et
ouais, non, mais c'est pas la fin. Mais voilà. Et en fait, bon, là pour pour l'occasion, c'est une version un peu spéciale de l'autisme, hein, puisque là, c'est le côté un peu savant, c'est-à-dire qu'il est capable de compter des objets très rapidement.
D'ailleurs, le film est tellement, c'est un peu comme Forrest Gump avec le cours Forrest.
Ben voilà.
Le film est tellement connu que du coup, on balance des. Ça va, Rain Man, pour mec qui
voilà,
compte vachement bien.
Ouais. Voilà, ouais, oui. Donc le film de Barry Levinson en 88. Alors évidemment, c'est l'autisme, c'est aussi l'angoisse du changement puisque le personnage veut toujours regarder son émission de télé et voilà, il a une mémoire éditée. dramatique.
Une scène émouvante où il danse avec son... les deux frangins. Voilà, c'est ça aussi. At Last de Etta James. C'est voilà, une très belle c'est scène.
Ça. Oui, oui, bah, c'est-à-dire qu'au au début, Tom Cruise va vouloir en profiter de son frère, notamment dans, au casino, puisqu'il a une mémoire, une très bonne mémoire des cartes. Mais bon, bon au bout d'un moment, c'est la fraternité qui va l'emporter. Et justement, tu fais très bien, parce qu'il y a aussi Forrest Gump, hein, puisque là, on a carrément le personnage un petit peu,
débile, hein,
un peu simplé, et qui va traverser une bonne partie de l'histoire américaine, du Vietnam, Nixon, Kennedy, et voilà. Et il va vivre son histoire.
C'est un jeu de mots pourri, mais vraiment pourri. Nixon et Nick sa mère aussi. Désolé.
Nixon et Nick Mazur, on dit. Sinon, ça fait pas, madame. Donc voilà, c'était deux sujets un peu. Il y avait aussi, puisqu'on en était aussi à Jack Nicholson, vous avez oublié Shining.
On l'a pas oublié, on l'a fait exprès voilà, parce c'est... que c'est plus fantastique que la maladie mentale. Voilà, mais... parce qu'il devient fou, parce qu'il y a un cimetière d'Indiens là-dessous.
Ah oui, voilà. Bah on oui. En a parlé. Ah bah oui, ah bah oui, excusez-moi, c'est vrai que dès que t'as un cimetière d'Indien, tu deviens.
Non mais
Google.
Ça c'est Stephen King, c'est comme ça, c'est des trucs que tu non, peux pas non, comprendre mais sinon, parce tu peux que tu viens pas du Maine.
Non mais sinon tu peux te faire avaler par ton pote de télévision aussi.
Oui.
Aussi.
Et ben oui.
Donc voilà.
Et si tu venais du Maine comme moi, tu le sens.
Ah oui, bah oui. A self-made woman.
Bon, allez, Pestel.
Pestel.
Du 7 au 13 mai.
Bravo.
Super. Neurasthénie, mon amour.
C'est bon,
hein. Oui, 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 oui. Non, mais...
Alors, comme c'est encore les vacances scolaires, vous avez Capelito et ses amis. À partir de 2-3 ans, hein, des films d'animation espagnols. J'ai regardé la bande-annonce sur Internet. Les 8 nouvelles aventures de Capelito, toujours aussi malicieux et plein d'humour.
Et si.
Eh ben,
faut pas que les enfants soient trop grands, quoi, c'est ça?
Bah, 2-3 ouais. ans, hein, quand même.
Ouais. Voilà, 2-3 ans. Je pense que jusqu'à 4 ans, ça passe. Après, ça les saoule.
Okay.
Voilà.
C'est ça.
Ensuite, vous avez Pas son genre, donc de Luca Bellevaux, avec Émilie Dequen et Loïc Corbéry dans les rôles principaux.
Oh, oui.
C'est l'histoire d'un jeune professeur de philo à Paris qui va se barrer à Arras. On dit Arras ou Arras?
Arras.
Arras. Hein. Arras, c'est pour les chevaux.
Oui.
Pour un an, il va y rencontrer Jennifer.
Oui,
parce que c'est anglais, on dit comme
oui,
ça.
Oui, voilà.
Une jolie coiffeuse qui devient sa maîtresse.
Et la bande-annonce ne rend pas service au film.
Non, mais d'ailleurs, voilà, je ne l'ai pas mis finalement. Non. Je voulais vous la passer. Donc effectivement, le film, il a l'air d'être cucu la praline complet. Parce que c'est la rencontre et l'amour entre Jennifer
entre
et Clément, une coiffeuse et un prof de philo. Il ne jure que par Kant et elle par les magazines People. En fait, a priori, Luca Bellevaux va un peu plus loin que ça.
Oui.
Casse le ce stéréotype qui ne dure qu'un tout petit peu le début du film.
Ouais, voilà.
Et ensuite, il fait ressortir les vrais. En fait, c'est une bonne leçon de cinéma aux autres cinéastes. Du style, regardez, on peut faire un film sur les différences et sur la manière de réfléchir.
On n'est pas obligé de tomber dans Pretty Woman.
Dans le cliché Pretty Woman.
Ni dans Intouchable, par exemple.
Dans tous, en fait. Dans tous ces clichés où c'est le pauvre et le riche, la belle et le moche.
Le noir et le blanc.
Voilà, le noir et le blanc, l'handicapé et le valide, c'est horrible. La prostituée et le vendeur de téléphone. Non, pardon. Donc, du coup, ça c'était hier soir. Pas son genre, à mon avis, à
J'étais
suivre.
J'étais pas la même soirée que toi.
Ouais, bon. Moi aussi. Hein.
Sinon, vous avez Les Amants électriques.
Ah oui.
Un film américain.
Ça, c'est les Godemichet.
C'est un film d'animation pour adultes de Bill Plimpton.
Pour l'occasion, oui.
Jacques et Ella se rencontrent lors d'un accident d'auto-tamponneuse. En même temps, c'est facile. Pam ! Voilà.
Oui, ça arrive souvent.
Voilà, non, les accidents d'auto-tamponneuse. Non, mais là, c'est un vrai accident.
Ouais, attention, il y a du danger, là.
Et s'éprennent follement l'un de l'autre. Bon, jusque-là, c'est un peu le début de plein de films. Mais c'est sans compter le machiavélisme d'une garce et le démon de la jalousie qui la pille.
Voilà. C'est des dessins, mais c'est hallucinant.
Voilà, le trait est assez extraordinaire, effectivement. Regardez juste sur internet le trait pour voir si ça vous dira.
Ouais,
ça dure que 1h16, c'est assez court.
Oui, ouais, mais c'est bien barré. Hein.
Ouais, et c'est rigolo parce que c'est un film d'animation, mais pour les adultes.
Ah oui, parce qu'il y a des, voilà, il y a des scènes.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Oui. Des scènes un petit peu osées.
Osées.
Olé, olé. Oui. Oh là là.
Et pour finir cette semaine du 7 au 13 mai au Pestel, vous avez le film de Max Ophuls. Je ne sais pas si on dit Ophuls.
Ophuls.
Ophuls, j'aurais dit. Qui s'appelle L'être d'une inconnue.
Mm-hmm.
Donc il passe en version originale sous-titrée.
Oui, parce que c'est un film de 48 hein, quand même.
Voilà, tout à fait. C'est vrai que je dis que le célèbre, le fameux, c'est du noir et blanc.
Yes.
Vienne, année 1900, à la veille d'une provocation en duel, Stefan Brandt.
Et qui
était un célèbre et séduisant pianiste sur le déclin, reçoit la lettre d'une certaine Lisa Berndl. Il découvre alors que celle-ci lui a voué toute sa vie un amour sans limite depuis le jour où il s'installa à côté de chez elle. C'est quand même bête, quoi, puisqu'il va se battre en duel le lendemain.
Voilà, oui,
effectivement.
Oui. Voilà. Oui, mais à cause de, un peu de cette lettre aussi. Donc
du coup, c'est le deuxième film de Max Ophüls, quand il s'est barré aux États-Unis. Et c'est l'adaptation somptueuse, ils disent, Carlotta Film, de la célèbre nouvelle de Stefan Zweig.
Ah bah évidemment.
Toujours Stefan.
Publiée en 1922. Cette œuvre mélancolique décrit comme nul autre les tourments de la passion amoureuse dans une Vienne fantasmatique.
Je l'ai chez moi, je le lis ce soir. Okay.
Voilà, sachant que le dimanche 11 mai...
Il n'y a pas de mai.
Vous avez deux séances de Lettres d'une inconnue, à 10h30 et à 20h30. Aux deux séances, vous aurez Frédéric Mercier, qui est critique de cinéma à la revue Transfuge, qui sera là pour vous expliquer un peu ce qu'il en a pensé, je me dis, et peut-être un peu son métier, je sais pas. Oui. Frédéric Mercier, qu'est-ce que tu nous diras ? En tout cas, voilà, ça peut être un bon coup. Et puis
je ne la connais pas assez pour me permettre.
Et le matin, à 9h30, il y a le café croissant offert, évidemment.
Voilà, c'est ça.
C'est voilà, donc une bonne semaine au Pestel quand même.
Oui, c'est vrai.
Tout à fait.
Bien
rempli,
quatre films.
Oui, voilà, c'est ça.
Et puis,
des films pour les enfants,
une programmation voilà, hyper éclectique. Et j'en profite, même si on le fait régulièrement, pour saluer encore et toujours le professionnalisme de notre cinéma, de son équipe,
ouais, big up.
De leur programmation de qualité et de leur choix discutable, discuté, mais plutôt défendable.
Ah, bah, c'est-à-dire qu'après, il faut jongler entre les blockbusters pour amener des sous et des films aussi pour un public averti.
Un travail difficile, mais très bien mené.
Et un public averti.
Voilà, c'est exactement ça. On vous embrasse. Merci beaucoup pour la qualité.
Ouais.
En attendant, c'est l'heure de nous quitter.
Voilà,
oui,
tout à fait.
Quittez-nous.
Après la folie, la semaine prochaine, vous allez nous retrouver.
Mais on vous aime à la folie, cher auditeur et
à
cher
la folie, pas du tout. Ah, d'ailleurs, j'avais oublié de parler d'un film. Tiens, à la folie, pas du tout, qui parle d'érotomanie. Enfin, bref,
oui, aussi, c'est bien le
voilà.
L'érotomanie.
C'est un mauvais film, mais qui parle d'une maladie qui est intéressante.
Voilà, ouais, bah, il y en a tout plein.
Allez. Ça suffit. La semaine prochaine, on vous retrouve pour une spéciale.
The power of love.
On vous retrouve pour une spéciale Retour vers le futur. On va traiter de la trilogie dans son intégralité. Et ça devrait être sympa. Great Scott.
Voilà, une heure sur Retour vers le futur avec Doc.
Retour vers la suture.
Retour vers la suture. Ça, c'est quand tu reviens.
Ah, c'est dégueu.
C'est les soins post-opératoires. Retour sur la suture.
Doc, Marty seront avec nous la semaine prochaine.
Oui,
donc, en invités spéciaux. On est content de les accueillir.
J'entends de l'émotion.
Voilà, si vous voulez venir du coup la semaine prochaine à l'enregistrement pour les rencontrer, c'est pas un problème. Hein.
Voilà, c'est pas un problème. Il y aura des croissants offerts aussi.
Allez, les dimanches après-midi.
Bah oui.
Et ben à la semaine prochaine.
Ciao ciao.
Pas de bras, pas de chocolat. Je ne suis pas bonsoir. Attention, mon Dieu, il n'y a rien. Je ne suis pas folle, vous savez. Ladies and gentlemen. DJ.
Vous êtes fou. Oh oui. Et qui l'accompagne?
Benny B, B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la poule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant m'a fréquenté. Où la PJ est passée trois quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi.
Mais vous êtes fou,
oh oui.
Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou,
oh oui.
Mais vous êtes fou.
Quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui errent, qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces façons ne savent pas qu'il reste encore une chance. Sinon on rien à cirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je veux pour que ça puisse marcher. On est à tous ces bailleurs,
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
The first rule of Fight Club is...
We do not talk about Vikings.
You talking to me?
I love the smell of napalm in the morning.
Life is like a box of chocolates.